bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy.
Je te laisse enregistrer ton podcast.
I'd like to make this groove sincere. Bass bump is in the house, we're gonna funk it real.
Allô, allô, bienvenue dans le Lobster 138.0 où ma copine me laisse enregistrer mon podcast. Yeah!
Je te laisse enregistrer ton podcast.
Je te laisse enregistrer ton podcast.
C'est des personnes comme les autres pour se traîner.
Ça me rend des dents.
Ouais. Tu devrais pas dire même si c'est des gens de petite taille.
C'est sûr parce que là, ce qui pourrait se passer, par exemple, t'as pas vu ses pieds. Si elle a du poil sur les pieds, c'est une petite jambe. Mais c'est pas la même catégorie.
Ah ouais, t'as un lutin.
Ouais, genre.
Je pense que t'as un lutin.
Ouais, fait que voilà 15 000 ans sur cette île, il y avait une île d'Indonésie de 15 000 km. Il y avait 2 millions d'arbres, puis ils trouvent des fossiles de nains. Ben, je suis un genre de nain viking, tu sais, genre avec les yeux grosseurs qui reflètent mon intelligence exubérante. Suite à ça, donc je vais porter des vêtements parce que j'ai pas envie de montrer ma curiosité aux gens excessifs.
Je te laisse enregistrer ton podcast.
Ok, ben je m'isole, puis je vais me coucher et je me lave pas parce que j'ai eu une journée de merde.
Je te laisse enregistrer ton podcast.
Je vais te poser une question, ok, moi?
Oui.
Non! Admettons, je sais pas, t'es allergique au miel. Tu vas-tu mettre du miel dans ton frigidaire? Non. Fait que si j'ai des problèmes gastriques, je mettrai pas des affaires de la chiasse? La chiasse?
La chiasse?
La chiasse?
Donc, quoi de neuf dans ce podcast 138.0? Eh bien, rien d'extraordinaire. En fait, rien d'aussi hot que la mort de Mario que je vous ai raconté là, dans le dernier podcast. Je peux dire que ma vie est calme là, depuis cet événement. Donc, de quoi je vais vous parler cette semaine? Eh bien, dans ce Lobster, surprise! Eh bien, j'ai plein de petits sujets popcorn que j'aimerais vous parler. Donc voilà, cette semaine, on parle de musique, on parle de mes histoires, on parle de l'étonnant, on parle d'unanisme et autres petites choses. Donc bon Lobster et bonne écoute.
Je te laisse enregistrer ton podcast.
Oui, Madame Lise.
C'est une belle journée, mais je suis déçue, j'ai pas vu de nains.
Ah, des nains, ouais, pourtant on est à Saint-Ferréol des nains. On devrait en avoir. Ils vont arriver bientôt. Il a fait froid, ouais, ils gèlent vite. Ils sont proches de terre. C'est dangereux.
Bienvenue à la municipalité de Lens-Saint-Jean. Nos bureaux sont présentement fermés. Vos heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 9h à midi et de 13h.
Exactement, c'est possible. Oui, j'aimerais prendre un rendez-vous avec vous le plus tôt possible pour qu'on discute.
Il y a même des trous. Mais celui-là. Ça, pour la rappeler, ça c'est Ezreal.
Oui, Ezreal.
Liel, c'est Gargamel et où?
Mais il est pas là, il est pas là, Gargamel.
Il est
là. Ouais, il est cassé.
Pourquoi il est cassé?
Ben moi, je pense qu'il se casse pour attraper les chevaux.
Liel, il se trompe, mais il a eu beau, il met ça, et il va attraper les chevaux, il va se sauver, il va plus vite. Mais lui, il va aller dans les feuilles, parfait.
Et puis on réussit à se trouver.
Oui, ils ont des tableaux. Lui, il fait de la peinture. Lui, il fait de la peinture. Lui, il fait de la peinture.
C'est beau, hein?
Il fait... Non, lui, il est à côté de lui, ça. Ça, il fait de la peinture. Il fait de la peinture.
I'd like to make this groove sincere. Bass bumpers in the house, we're gonna funk your rear.
Bon, on débute-tu ce lobster-là? Bon, j'étais en train de jouer dans mes enregistrements là, de dictaphone juste avant de commencer ça. C'est pour ça que j'ai rabouté plein d'affaires sur la chanson là, qu'on vient d'entendre. Je me rends compte que j'en ai beaucoup, beaucoup trop d'enregistrements. Puis ça fait quelques années là, que je fais ça. Dès que quelque chose me semble intéressant, je lance l'enregistrement sur mon téléphone, puis je le dépose là, puis je laisse rouler, puis ça devient un souvenir. Et là, ben ouais, je me rends compte que j'ai beaucoup d'enregistrements de sauvegardés. Il y a 99% que c'est ma famille. C'est des discussions là, qu'on a là, souvent au chalet là, ou aux endroits qu'on se rencontre. Puis j'en ai d'autres, c'est des affaires le fun. Là. J'ai la conférence du commandant Piché qui était venu chez Desjardins. Puis qui raconte son histoire d'avion là, qui a fait planer. Là. Et j'ai aussi la conférence de Mylène là, qui a traversé l'océan à la rame. Puis ça, ben, je vous les passerai là, à un moment donné. Là, j'en ai déjà parlé, mais j'attends juste qu'ils décèdent avant de vous passer ça, là, parce que j'ai pas le droit d'y passer. C'est leur conférence, je ne veux pas lui nuire. Donc, on les écoutera ensemble là, après leur décès. Donc, vers le Lobster 300 là, ou 400. Mais bon, c'était pas ça le sujet dont je voulais vous parler. Non, cette semaine, je veux vous parler de masturbation puis de céréales, les deux ensemble, mais pas l'un dans l'autre. Ça serait de mauvais goût et ça aurait sûrement là, mauvais goût. En fait, c'est un genre de fun fact là, que j'ai appris cette semaine. Je pense que c'est avec ChatGPT que je jasais puis qui m'a raconté ça.
Saviez-vous que les céréales que vous mangez au petit-déjeuner cachent un secret que vous êtes sûrement loin d'imaginer?
Eh oui, sachez que les cornflakes ont été conçus à la base comme étant un remède contre la masturbation. Et oui, les cornflakes, les pétales de maïs, ont été créés par un médecin américain qui voulait lutter contre la masturbation. Donc tout ça, ça a commencé quand? C'est John Harvey Kellogg en 1898 qui a fabriqué avec son frère les cornflakes. Bon, ça c'est pas mal les années de mon piano en passant. Ces grains de maïs sont cuits à la vapeur, puis ensuite sont aplatis entre deux rouleaux, c'est ça le secret. Puis le médecin, lui, va décider de les intégrer au régime de ses patients au sanatorium de Battle Creek dans le Michigan. Et pour ce docteur, une alimentation saine permet de lutter contre de multiples phénomènes, dont la masturbation qu'il condamne. Celle-ci serait pour lui la cause de nombreuses maladies comme les cancers de l'utérus et les maladies urinaires, mais aussi de l'impuissance et de l'épilepsie. Bon, je ne sais pas comment il fait le lien entre tout ça. Ça me semble un peu tiré par les cheveux, mais rappelons-nous, on est en 1898 et quelqu'un à Huntington est en train de préparer mon piano. Bon, John Harvey Kellogg y était un fervent croyant, membre de l'église adventiste du septième jour. Donc, beaucoup de choses viennent de s'expliquer. Il défendait le mouvement de la vie saine qui, elle disait dans ses maximes, d'avoir une bonne hygiène, de la propreté et de la pureté. Bon, parmi les combats de ses partisans, là, de ses amis de la lumière, il y avait la lutte contre le sexe sous toutes ses formes. Pour preuve, le docteur Kellogg n'a jamais eu de relation sexuelle avec sa femme. C'est quand même incroyable. Je me demandais, quand j'ai lu ça, c'est quoi ça? Parce que quand j'ai lu ça, je suis allé lire, évidemment, la biographie du bonhomme. J'ai dit, il est quand même spécial, là, s'il n'a jamais eu de relation avec sa femme. Puis il est quand même à l'origine de ce monsieur-là, à l'origine de la création des Pop-Tarts, en plus, qui ont failli nous tuer dans notre enfance. Donc, ça méritait quand même que je lise un peu plus sur lui, que j'aille voir sa biographie pour comprendre. Et quand j'ai lu sa biographie, c'était quand même assez déroutant. Il n'a jamais couché avec sa femme, mais il a quand même élevé 42 enfants. Bon, OK. D'après ce que je comprends, lui et sa femme, ben, il adoptait des enfants puis s'en occupait là, dans un orphelinat. Bon, c'est quand même pas une mauvaise idée, là. Mais plus on lit sur lui, on voit qu'à un moment donné, là, dans sa tête, ça déraille un petit peu. Bon, notre monsieur un peu spécial, il s'opposait pas juste au sexe, mais aussi à l'alcool, au tabac, à la caféine, au sucre, aux narcotiques, à la viande et aux épices fortes. Mais je vous rassure, il mangeait du yogourt. Bon, une des croyances qu'il avait, bon, puis qui était comme intégrée au travers de sa religion là, d'illuminer de la lumière, ben... Comme je vous ai dit, il était dans l'église adventiste du septième jour. Une église qui avait prédit, d'après ce que je lis, la destruction du monde le 22 octobre 1844. Bon, comme ça a comme pas trop marché avec leurs prédictions, j'imagine qu'ils ont décidé d'inventer d'autres choses pour continuer là, avec leur religion. Donc, M. Céréal, lui, il avait comme croyance religieuse que la masturbation, c'était pas bon. Non, il disait que ça détruisait la santé physique et mentale, mais aussi morale des individus. Ce vice solitaire, comme il l'appelait, en bon médecin comme il était, il disait que ça causait, je vous l'ai dit un peu tantôt, là, le cancer de l'utérus, maladie urinaire, impuissance, épilepsie, la folie, on rajoute la folie, on rajoute la débilité physique et mentale et l'obscurcissement de la vision. Finalement, il disait que la masturbation était aussi responsable des émissions nocturnes. Ici, je me cassais un peu la tête puis je trouvais pas c'était quoi des émissions nocturnes. Bon, à quoi il pouvait bien faire référence au 19e siècle quand il parlait de ça, j'en avais aucune idée, mais quand même, vu que je jasais avec ChatGPT, eh bien, je lui ai demandé puis elle m'a dit que c'est quand on éjacule la nuit en dormant de manière involontaire puis en rêvant de contenu sexuel. Donc, c'est ça des émissions nocturnes, c'est avoir du plaisir en dormant. Donc, voilà, vous êtes quand même renseigné maintenant sur plusieurs maladies, certaines mortelles qui sont causées par la masturbation. Donc, ça sera à vous de faire attention. Le bon docteur lui a quand même dit que c'est triste de voir des victimes qui meurent littéralement de leurs propres mains. Mais quand même, il a proposé un traitement. Oui, il a trouvé un traitement à ça. C'était vraiment un bon médecin. Lui, il préconisait de traiter les masturbateurs. Ouais, c'est comme ça qu'ils les appellent, les masturbateurs. Donc, son traitement, bon, je vous épargne une partie de ses traitements. Il était un peu fou, je vous le rappelle. Puis, ça ressemble à des remèdes médiévales où tu coupes des morceaux, puis il y a du courant là, d'impliquer là-dedans, là, des petits chocs. Donc, ça, je vous épargne ça. Mais en matière de médecine plus douce, il prescrivait ceci.
M. Kellogg proposait de mettre aux adolescents des bandes de pansements aux mains, de les attacher et de couvrir leur sexe au moyen d'une cage brevetée.
Bon, voilà. Je pense qu'avec ça, on a fait le tour du bonhomme. Ça vous donne une bonne idée. Donc, pour conclure sur cette nouvelle, car oui, je me suis égaré en cours de route, car je vous le rappelle au départ, ma nouvelle était que les cornflakes avaient été créés pour lutter contre la masturbation. Donc, pour conclure, pour décourager la masturbation qui était largement stigmatisée à l'époque, le monsieur Kellogg avait préconisé un régime alimentaire strict et l'adoption d'une série de mesures, dont l'abstinence sexuelle. Lui, il croyait que l'alimentation jouait un rôle essentiel dans le comportement sexuel et qu'une alimentation saine et faible en excitants sexuels potentiels, tels que la viande rouge et les épices, pouvait réduire les désirs sexuels. Mais pour le yogourt, je vous le rappelle, aucun danger. Donc, si vous voulez régler vos problèmes de masturbation, il faut préconiser le yogourt et laisser de côté les viandes rouges et les épices. C'est d'ailleurs un bon moyen de trouver parmi vos amis qui a des problèmes de masturbation excessif. Faites juste la liste de vos amis véganes. Moi, j'y ai pensé. Puis je pense que juste mon ami Martin, qui est semi-vegan, là, je pense, je suis pas sûr, ou si c'est juste sa copine. Bref, j'ai juste ces deux amis là, qui semblent avoir des problèmes de masturbation excessive. Et voilà. Donc, c'est ça la conclusion, malheureusement. Donc, on quitte en petite pause musicale, puis on revient avec un sujet tout aussi pertinent et intéressant. Donc, à tantôt après la pause.
Je te laisse enregistrer ton podcast.
créé dans la rue. Le breakdance a envahi le monde. Maintenant, et pour la première fois au Canada, Ketel présente Breakdance, un merveilleux micro-sillon avec en super vedette le breaker par excellence, Herbie Hancock. Sur un côté, toutes les instructions pour apprendre facilement le breakdance.
Alright, right on, let's get on with the fun. Let's breakdance together to the break of dawn.
Danser le fameux moonwalk à la façon de Michael Jackson.
Yeah, and you need to put your elbow in a slight twist. But keep it level all the time, on that I insist.
Toutes les instructions sur un super poster couleur. Un ensemble avec tout ce dont vous avez besoin.
I said, your hand goes down, your elbow goes in high, your shoulder to your head. Come on, give it a try.
Pour la première fois, un ensemble breakdance complet. Sans oublier les fameux freeze. Super musique, des instructions faciles à suivre, plus un poster couleur. Breakdance de Ketel, le micro-sillon de l'année, en vente maintenant.
Denise Cabana, enseignante, problème mal de tête.
Ça se promène ici, et ça fait le tour, ça fait comme un bandeau. C'est douloureux, effectivement, oui.
Connaissez-vous Tylenol?
Non, je ne l'ai jamais essayé.
Des études cliniques ont prouvé que Tylenol a assez de puissance pour soulager la douleur efficacement et sans déranger l'estomac. Comment vous sentez-vous?
Je me sens bien. Disons que j'ai plus de pression, j'ai plus de mal, je me sens en pleine forme. Tylenol m'a soulagée. Alors, je suis prête à l'adopter.
Bon, de retour dans le Lobster 138 et je dois vous dire que je suis pas content. Non, je me suis fait arnaquer dernièrement la grosse arnaque sale. Tout a commencé par un beau samedi matin ensoleillé. Ouais, je m'étais levé tôt, vers 7h30, ce qui est quand même assez tôt pour une journée de congé. Mais bon, vers 8h30, une heure plus tard, j'entends du bruit au deuxième étage. Ma copine qui se réveille.
Et je te laisse enregistrer ton podcast.
Donc, je me dis, ce matin, on va manger des bonnes crêpes. Bon, j'adore faire des crêpes Suzette. La recette du livre de Jeanne Benoît est vraiment exceptionnelle. Tout le monde qui goûte cette recette... Tout le monde qui goûte cette recette de crêpes, il adore ça. Bref, je commence ma recette et au moment de mettre le lait, je vois que le lait qui me reste, là, il est pas top top. Le lait, il goûte un petit peu le caillé, ce qui pour des crêpes ou toute autre recette est pas top top. Non, c'est pas trop recommandé. Donc, comme ma recette était déjà toute faite, sauf le lait, j'ai pas eu le choix. Je suis parti au dépanneur me chercher du lait. Dépanneur qui deviendra, vous vous en doutez, le lieu du crime sordide qui va être commis contre moi. Donc, je me rends là, j'achète mon lait, c'est un 2 litres Béatrice de lait 2%. Moi, je bois du 3,25 d'habitude, mais il y avait juste du pur filtre et le dépanneur le vend trop cher. Bref, je m'en fous un peu, je prends du 2% pour ma recette qui n'est pas pur filtre et je retourne à la maison où, ayant un doute, je vais jouer à Sherlock Holmes. Oui, vous le savez probablement ou vous le savez pas, ou je vais vous l'apprendre, le prix du lait au Québec est fixé par une régie, il y a un prix minimum et maximum pour le lait régulier. Donc tous les laits pur filtre, les laits en bouteille de vide, de fermier, de poule, de je sais pas quoi à 5% et plus, etc. Ce lait-là, pas de prix fixe, mais pour le reste, le 1%, 2%, 3,25% normal, qui sont dans des sacs en plastique, ou les pintes en carton qu'on connaît, ben, y a un prix qui est fixé. Donc, comme j'avais un doute sur le prix que j'avais payé au dépanneur Ultramar, je me suis rendu sur le site du gouvernement. Et le prix du lait, bon, je le trouve en 2 secondes, je trouve le tableau. 2 litres, 2%, le prix minimum, 3,95$. Prix maximum, 4,29$. Prix minimum livré à la maison, 4,6$. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le maximum, c'est le 4,29$, c'est le prix max que le garçon au dépanneur a le droit de me vendre son lait. Puis là, je compare avec ma facture. Prix maximum 4,29, sur ma facture 4,33. Donc, je me suis fait arnaquer d'un gros 4 sous. Sur le site du gouvernement, bon, c'est bien indiqué que pour ma région, le prix ne doit pas dépasser 4,29. Là, j'ai vérifié, j'avais deux doutes. J'ai dit, je vais vérifier ailleurs. IGA.ca, eux, ils vendent à 4,10. Métro, 4,29. Maxi, 4,29. Donc, Métro et Maxi, ils vendent au maximum du prix fixé par le gouvernement. Il y a juste chez IGA que c'est un peu moins cher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai porté plainte. Ah oui, ah oui. Sur le site du gouvernement, bon, ils nous expliquent comment faire une plainte. C'est pas trop compliqué. C'est juste d'envoyer une photo du produit avec la facture qui donne l'adresse du magasin puis le prix. Et t'envoies ça à plainte@rmac.qc.ca. Donc, c'est fait. J'ai envoyé ma plainte. Puis je vous en donnerai des nouvelles dans Slopster ou dans un autre si jamais je reçois une réponse. Ben, j'espère que oui. Évidemment, vous comprendrez que je m'en fous du katsu qui est payé trop cher, mais c'est pour le principe. Le prix du lait, bon, c'est pas de quoi qui varie tous les jours. C'est pas comme le gaz, là. Un détaillant ultramar, il sait qu'il doit respecter le prix du lait max. Ils font des millions de bénéfices là, à chaque trimestre. Donc, pourquoi nous voiler comme ça 4 sous sur le lait? Moi, j'ai dit, c'est pas correct. Bon, puis l'autre raison pourquoi j'ai fait notre plainte, c'est que je les aime pas. Mon ultramar, ben, il a toujours des problèmes avec sa machine pour garder le lait frais. Une fois sur deux, quand je vais là pour acheter du lait pour me dépanner, ben, le lait, il est pas bon. Je dois retourner l'échanger contre une autre plainte. Bon, leur frigo, il est à l'aile, là, il est game over depuis environ 10 ans, puis je vous mens pas, c'est vraiment 10 ans. Ils ont mis des cartons dans le côté pour essayer de retenir le froid à l'intérieur. La chaîne de froid dans le frigo est comme capoute, là. Puis au lieu de la changer, ils nous vendent du lait chaud. Bon, c'est comme ça depuis environ 10 ans, je vous dirais. Donc, je sais, il faut pas acheter du lait là, mais en plus, si je me fais arnaquer sur le prix, eh bien, ça me rend heureux de pouvoir déposer une plainte contre eux. Là-dessus, en plus, après, j'ai regardé un reportage en ligne que l'émission L'Épicerie avait fait sur ce sujet-là en 2019. Bon, ça date un peu. Puis il semble que le prix du lait trop élevé dans les dépanneurs, ben, c'est assez fréquent. Eux, ils ont fait le test de Montréal à Québec en passant par les petites municipalités et l'équipe de L'Épicerie a facilement trouvé des fautifs. Les laits, qui soient peu importe le pourcentage, eh bien, leur prix dépasse de 1 à 40 sous le prix plafond. Puis au Québec, la régie des marchés agricoles et alimentaires, ils disent qu'ils reçoivent, eux, environ 200 plaintes par année. En général, il y en a une cinquantaine qui seraient fondées. Puis dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, eux, ils mandatent quelqu'un. Qui se rend sur place. À Montréal, c'est le service des inspections des aliments qui est chargé des enquêtes. Puis là, ils disent si on reçoit une plainte, l'inspecteur se déplace chez le commerçant. Si c'est fondé, il donne en premier un avertissement légal. Ensuite, ils reviennent une autre fois. Puis si le règlement n'a pas été respecté, ben là, il pourrait y avoir des poursuites judiciaires. Mais bon, c'est écrit, il pourrait y avoir des poursuites. J'en doute, là. Le gouvernement n'est pas très fort d'habitude sur ce genre d'affaires-là. Là. Donc voilà, si je ne me suis pas trompé, quand même, mon dépanneur, il devrait se faire au moins rappeler à l'ordre. Je vais peut-être faire sauver 4 sous à mes voisins là, qui achètent du lait là. Puis qui sait, ça va peut-être tellement faire chuter les profits chez Ultramar que c'est peut-être le début d'une faillite là, pour ce groupe-là. Donc, si j'étais vous, peut-être pensez à vendre vos actions si vous en avez. Bon, on part en musique, mais avant, bon, c'est sûr, là, il y a la magie du lobster, là, il s'écoule du temps. Et, entre-temps, j'ai reçu une réponse du gouvernement grâce à la magie du temps écoulé. Et oui, et bon, il s'est écoulé quelques jours avant que j'enregistre l'émission, puis j'ai eu le temps d'avoir une réponse à ma plainte. Bon, je vous la lis, vous allez être déçus, c'est décevant. C'est le petit message suivant. 1, 2, 3, quoi, 7 lignes, ça dit, même pas. Ça dit, « Bonjour, nous avons bien reçu votre plainte concernant le prix du lait chez un commerçant. Merci de l'intérêt que vous portez au règlement sur le prix du lait de consommation. Salutations, Samuel Tremblay, conseiller économique, régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. » Puis là, il me laisse son adresse. Donc voilà. Donc on part en musique.
Comme si t'étais la seule au monde au final. Je plaide coupable quand tu me juges au pénal. Mais tu ne vois pas d'anomalie, oh oh oh. Y'a qu'à moi que ça arrive, oh oh oh. Je prends tes phrases comme des coups d'opinel. Malgré tes larmes, tu me fais mal au final. Mais tu ne vois pas d'anomalie, oh oh oh. Y'a qu'à moi que ça arrive, oh oh oh.
Dis-moi pourquoi tu t'isoles. Dis-moi pourquoi tu t'isoles. te llamo siempre. Quiero que respondas. Dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal. Si te llamo siempre. Quiero que respondas. Dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal.
Dime por qué te gusta que me duela. Me tienes en locura y sin la vela. Recuerda mis canciones a capela. Me traje desvelado y tus recuerdos vuelan. En mi mente siempre estás constantemente. Por no tenerte cerca me vuelvo un demente. No tienes idea de cómo se siente. Te extraño tanto y no quiero un suplente.
Dime por qué tú te corazón. Dime por qué tú te corazón.
Si te llamo siempre. Quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal.
Si te llamo siempre.
Ça, c'était quand même une belle chanson. Gims et Maluma, la chanson Cité l'amour. C'est tout nouveau. Moi, j'adore la voix de Gims. C'est mélodique quand il chante. Mais bon, c'est pas ça le sujet de ma prochaine chronique. Oh non! Là, c'est encore une de mes affaires un peu spéciales. Bon, je sais pas si vous savez tous que j'invente des jeux pour jouer la nuit, là, des jeux pour aider à s'endormir. Je vous ai déjà parlé du jeu du génie. Là. Disons que je te donne 3 vœux, tu fais quoi avec? Bon, je vous avais expliqué... Bon, je suis en train de mourir. Je vous avais expliqué ce que je faisais avec mes vœux. Mais ça, j'ai pas rejoué. Non, depuis 2 semaines, quand j'y pense, la nuit, là, je joue à un nouveau jeu. Ça se nomme Nain Manchot. Oui, Nain Manchot, je vous explique. Donc, quand tu es couché et que tu veux t'endormir vite, ben tu peux jouer à ça. Moi, je m'endors assez vite, donc j'ai pas le temps d'y jouer longtemps. Je dois rejouer plusieurs soirs d'affilée là, pour arriver à faire avancer le jeu. Donc, voici les règlements. En gros, tu dois simuler une journée dans la vie d'un nain manchot. Tu pars du matin puis tu essaies de te rendre au soir. Ça semble simple, mais quand tu joues, c'est pas évident. Puis, tout dépendant du bras manquant chez ton nain, ben ça se complique. Moi, hier soir, mon nain il est mort d'une infection à l'oreille. Bon, car il s'était rempli l'oreille de crème à raser, mais bon. Donc, vous voyez, ça peut très mal virer si vous suivez mes règlements. Donc, première des choses, vous devez choisir votre nain. Ici, c'est vraiment au goût. Vous le personnalisez selon vos désirs. Il peut être harmonieux là, avec un corps relativement semblable à celui d'un homme ou vous pouvez laisser aller libre cours à votre imagination là, et avoir certaines difformités là, loufoques. Par exemple, une bosse dans le dos. Bon, le nain ensuite peut être un il, un elle, un yel, ça c'est au choix. Et bien sûr, vous pouvez rajouter des petits détails le fun qui peuvent influencer le jeu, style un défaut, une qualité. Ben, en fait, peut-être pas un défaut de plus, là, c'est déjà un nain, mais une qualité, gars, style, sa main restante qui lui reste est normale, elle n'est pas difforme. Ça peut être une qualité. Une fois que c'est fait, que vous avez une bonne idée de votre personnage, là arrivent les choses sérieuses. Là, où vous devez décider si votre nain ben moi il se nomme Augustin. Vous devez décider si Augustin il a perdu son bras droit ou son bras gauche. Puis en faisant ce choix-là, vous décidez par le fait même si le bras perdu est son bras principal. S'il est droitier, que vous lui enlevez le bras droit, ben alors c'est comme jouer au niveau difficile dans le jeu parce qu'il va être moins habile évidemment avec son bras restant. Donc moi j'avais choisi qu'Augustin il avait perdu son bras principal. Donc j'étais parti comme ça. Augustin, nain droitier, qui, en participant à un concours de mangeurs de hot dog, s'était coincé le bras dans un distributeur automatique de hot dog géant qui s'était soudainement mis en marche, le forçant à se libérer en abandonnant son bras. Voilà, moi, c'était mon background de départ. Une fois que votre perso est fait, bien, vous débutez le jeu. Dans votre tête, vous faites les étapes de sa journée. Donc, moi, mon Augustin, bon, il se réveille le matin. Il doit se préparer pour aller travailler. Le but, c'est qu'il doit survivre à sa journée. S'il revient vivant, vous avez gagné. Donc moi, mon Augustin, il est assez standard. Il travaille comme pompier. Bon, je trouvais que c'était un beau défi là, pour un nain d'être pompier. Donc Augustin, sapeur-pompier, se réveille puis commence sa journée comme tout bon pompier. Il aime l'eau, il prend une douche en se levant le matin. Ici, pas de problème en se levant du lit. Je me suis dit que les problèmes viendraient plus tard. Il a juste glissé en bas du lit puis il s'est bien reçu sur ses jambes en arrivant en bas. Bon, petit détail de règlement. Pour rendre le jeu le fun, vous devez comme être sans pitié. S'il y a de quoi qui doit mal virer dans sa journée, ben ça doit mal virer dans l'histoire. Donc, se faire chauffer de l'eau pour un café, si c'est dans un vrai... d'une vraie machine à café, ça va. Mais s'il fait lui-même chauffer l'eau puis là, il verse l'eau ensuite dans une tasse, l'eau bouillante, ben c'est dangereux. Donc, c'est là qu'il peut avoir un accident. Donc, vous voyez le genre de choses qui peut arriver. Donc, moi, mon Augustin, il s'est glissé en bas du lit, puis de là, il se rend à la chambre de bain. Bon, il se déshabille pour prendre une douche. Ici, le plus dur aura été de défaire les boutons de son pyjama. Mais encore là, j'y voyais rien de trop problématique. À une main, il arrive quand même à défaire les boutons. Ça prend un peu de temps, mais je me disais, il fait ça tous les matins, donc ça va. Habituellement, bon, je me dis qu'un nain manchot, il a réussi quand même à bien adapter sa maison à ses besoins. Bon, c'est souvent quand il sort à l'extérieur que sa vie se complique. Donc, tant qu'il est dans sa maison, moi je me disais, ça va bien aller. Mais non, c'était sans compter sur le fait que ce matin-là, mon Augustin avait décidé de se raser. Donc, prévoyant, il amène sa crème à raser, son rasoir puis une débarbouillette avec lui dans la douche. De là, il démarre l'eau pour se doucher. Bon, une bonne eau assez chaude car avec tous ses problèmes de constitution, ben, les nains ont souvent des douleurs un peu partout puis l'eau chaude, ça les aide. Donc, mon Augustin, il aime bien ça. Bon, s'il pouvait parler, il dirait « aime l'eau chaude ». Mais bon, en ouvrant les jets d'eau du plafond puis ceux du mur, il a encore une fois oublié que les jets dans le mur, qui normalement crachent de l'eau dans le dos, là, pour une personne normale, ben lui, à 3 pieds 2, ça lui arrive direct d'en face. Donc, après avoir reçu un jet d'eau d'en face, Augustin en revient à un arrosage exclusivement au plafond. Mais ça va, c'est un débrouillard, mon Augustin. Donc, avec les yeux qui lui chauffent un peu, bon, il laisse l'eau chaude couler sur son visage, là, question de laisser les pores de sa peau s'ouvrir un peu avant le rasage. Puis une fois qu'il est prêt, ben il se lance. Puis qu'est-ce qu'il doit faire? Eh oui, Augustin, il doit se mettre de la crème à rasage dans le visage. Puis c'est là que ses problèmes ils débutent. Là, pour une personne normale, là, moi je fais ces gestes-là tous les jours, j'y pense même pas. Mais imaginez-vous avec un bras en moins, le bras principal en plus. Pensez-vous que c'est facile? Juste de retirer le cap protecteur sur la bouteille de gel à raser avec juste une main, c'est quasiment impossible. Bon, Augustin, il arrive pas, puis il échappe la bouteille au sol en la manipulant. Mais, bon, oh, heureusement, en tombant, le cap, il s'enlève. Bon, il est content. Il pense que c'est de bon augure pour sa journée. Il ramasse donc la bouteille de sa main difforme et, bon, pas le choix, il décide de s'en mettre dans le visage. Donc, il vise son visage. Bon, car habituellement, quand tu as deux mains, ben, tu craches la crème dans l'autre main pour ensuite l'appliquer. Mais là, avec juste une mini-main qui tient déjà la bouteille, tu n'as pas le choix de viser direct à l'endroit où tu veux que ça y aille. Puis c'est là bon, que l'affaire du bras principal embarque. Si vous vous souvenez, bon, au début de l'histoire, moi, j'avais choisi de jouer à difficile. Donc, Augustin, qui n'est pas très habile de son bras gauche, il vise le bas de son menton, mais malheureusement, c'est là que la difficulté embarque. Toute la crème lui arrive dans le côté de la tête, sur l'oreille gauche. Bon, Puis vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais le gel à raser, ça a tendance à gonfler, à s'épandre un peu avant, après être sorti là, en jet. Ça gonfle à l'air, puis pas juste un peu, là, ça double de taille. Donc lui, bon, mon Augustin, il se crache ça direct dans le conduit de l'oreille, il se remplit ça jusqu'au tympan, puis paf! La crème prend de l'expansion, ça lui explose les tympans puis la moitié du côté gauche du cerveau. Puis c'est là que dans mon histoire, on retrouve Augustin mort d'avoir voulu se raser. Mais bon, moi mon Augustin, il s'est pas rendu loin dans sa journée de nez manchot. Mais c'est sûr que moi je jouais à difficile. Donc là, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez recommencer votre journée, puis là, il faut trouver un autre moyen de passer l'obstacle. C'est sûr que là, je l'ai fait mourir d'une façon assez drôle, mais ça aurait pu, la crème aurait pu juste tomber à terre, il glisse dessus puis il se cogne la tête. Donc moi j'ai choisi de le faire mourir d'une façon un peu idiote là, mais c'était pour jouer à mon niveau difficile que j'ai fait ça. Donc l'important dans le jeu, comme je vous disais, c'est d'être sans pitié pour rendre ça le fun. Si ça doit mal se passer, ben vous devez pas lui donner de chance. Une fois que vous aurez réussi à vous rendre à la fin d'une journée, c'est là que les choses vont commencer à être le fun. C'est comme si votre perso de niveau 0, il commence sa vie d'aventurier, il devient niveau 1 comme dans DCC, là, Dungeon Crawl Classic. Puis là, ben la suite, c'est pas de lui faire une autre journée. Oh non, ça c'est plate de recommencer. Non, la suite, c'est que vous pouvez vous rendre sur le site du Lobster, puis vous pouvez télécharger les extensions du jeu. Et oui, j'ai pensé à tout pour que le jeu il dure longtemps. Donc, vous pouvez aller sur le site puis vous imprimer des petites cartes que j'ai mis en ligne. C'est des petites cartes de mise en scène que vous pouvez imprimer avant de vous coucher, puis ça prolonge le jeu. Voici un exemple de carte là, que vous pouvez retrouver. Il y a la carte « Augustin prend l'avion et part en voyage à Cuba ». Ça, c'est la première carte que j'avais inventée. Puis vous essayerez de vous rendre plus loin que moi là, dans la journée d'Augustin. Moi, il est mort avant de prendre l'avion. En passant le détecteur de métal, là, comme il y avait plein de petites plaques à l'intérieur de lui là, pour réparer ses bobos de nain, ben, il y a un des chiens policiers qui a sauté dessus en entendant les sonneries d'alarme là, aux douanes. Une autre carte du set d'expansion, j'ai Augustin visite une ferme de capybara. Ici, là, je vais être transparent avec vous. Cette carte-là, ben, c'est une variante d'Augustin va au zoo que j'avais dans la version originale du jeu. Ben, au départ, il allait simplement au zoo, mais je me suis dit que c'était quasiment impossible de jouer cette carte au niveau difficile. Il y a trop de possibilités de mourir en visitant un zoo. C'est impossible pour un nain là, de s'en sortir vivant. À preuve, avez-vous déjà rencontré un nain dans un zoo? Moi, non. Non, moi, la seule place que j'ai rencontré puis nourri un nain, c'est au milieu d'un champ où les situations dangereuses là, étaient réduites au minimum. Donc, dans cette version améliorée de mon jeu, ben, j'ai préféré limiter les sources de danger à un seul animal. J'ai choisi le capybara, qui est comme un gros chien poilu là, de la même grosseur qu'un nain. Je me suis dit que ça serait juste assez difficile puis amusant. Surtout, si vous regardez des vidéos TikTok là, de temps en temps, vous avez sûrement déjà vu un des capybaras. Là. C'est des vidéos de capybaras. C'est un peu idiot. Des fois, quand tu les vois, là, ils sont immobiles sur la tête d'un alligator qui nage là, ou au milieu d'un groupe d'hippopotames. Là, ils sont insouciants. Pis, en tout cas, voilà. C'est un animal avec lequel vous pouvez faire jouer votre nain. Bref, c'est ça pour cette carte. La prochaine, ben, j'ai Augustin mange des prunes comme collation. C'est ça. Ici, c'est plus une carte qui mène à plein de situations loufoques. Vous savez que ça fait qu'est-ce que ça fait manger trop de prunes. Bon, je sais pas si vous, ça vous fait quoi, mais imaginez un nain qui a la moitié moins long d'intestin que vous. Ouf. Moi, j'ai pas encore pogné cette carte-là en jouant, là, mais quand même, j'ai hâte de la pogner là, un soir. Et finalement, dernière carte dans mon box set que je vous parle, j'ai Augustin se rend dans un club échangiste. Ici, je vous le précise, mais cette carte, je l'ai mise juste dans la version adulte du jeu, car oui, bien sûr, vous pouvez parler de ce jeu à vos enfants aussi. Pour ceux qui ont de la misère, par exemple, à coucher leurs enfants, ben, vous pouvez lui parler de ce jeu-là. Nain Manchot, c'est un jeu qui peut être le fun à jouer avec eux. Donc, plutôt que leur demander de compter des moutons là, dans leur tête pour essayer de s'endormir, ben, c'est pas une mauvaise idée de moderniser l'activité puis de leur faire essayer Nain Manchot. Pour l'instant, je vous le dis, le jeu il est encore gratuit, donc c'est bien. Là, je suis en train de breveter tout ça, donc avant que ça soit payant, je vous dirais profitez-en. Voilà, c'est ça mon jeu, Nain Manchot, et ses expansions sous forme de cartes pour prolonger le jeu.
qui seront bientôt disponibles en magasin.
Voices in my head keep on telling me to pray, 'cause I'm spinning like a carousel, circling the train. Hit the bottom of the bottle, I don't wanna feel the pain, but that is all I got for now, I don't wanna talk about. The voices in my head keep on begging me to stay. If I pull the trigger now, then the demons go away, and I know my time is coming, so there ain't no time to waste. So that is all I got for now, I don't wanna talk about. The voices in my head keep telling me to choose a side. It's heaven or hell, like it's do or die. I'm a sad boy, you know better. Please don't make this last forever.
The voices in my head keep telling me I'm not okay. It's feeling like a hurricane in my brain. Dark clouds, hard times, bad weather. Please don't make this last forever. The voices in my head keep on telling me I'm gonna die. And I don't wanna talk about the drama.
Giving me the worst advice. Kamikaze crash like a suicide. I'm a lost boy, you know better. Please don't make this last forever.
The voices in my head keep telling me that I'm insane, and maybe I'm a little bit that won't change. Dark clouds, hard times, bad weather. Please don't make this last forever. The voices in my head keep on telling me I'm gonna.
Voices in my head keep on telling me I'm cursed. I'm paranoid, I don't wanna make it any worse. We're all gonna die, but first things first, I'ma take the world with me when they put me in the dirt. The voices in my head keep on telling me I'm cursed. I'm paranoid, I don't wanna make it any worse. We're all gonna die, but first things first, I'ma take the world with me when they put me in the dirt.
Move!
Cet automne, tous les jours de la semaine. À 16h30, de bonne humeur vous revient une demi-heure plus tôt avec Michel Louvain. À 17h30, fais-moi un dessin, un jeu animé où ça crie, ça rit, c'est la folie. Et à 18h30, Charivari, le quiz le plus populaire des ondes avec Guy Mongrain. En fin de journée, pour tous les goûts, à tous les coups, dès 16h30 sur la nouvelle télé.
Bon, pour participer là à cet effort de vous divertir pour tous les goûts et tous les coups, eh bien, je vous ai préparé un petit jeu questionnaire. C'est comme ça qu'on va conclure ce Lobster. C'est un petit questionnaire de 10 questions sur des faits étonnants. Vous pouvez bien sûr calculer vos points, puis toutes les gens qui vont obtenir la note de passage de 6 sur 10, eh bien, vous pourrez recevoir une copie électronique de mon prochain jeu, Ninkujat, qui devrait sortir en 2024. C'est un peu comme le jeu Name en show, mais avec les jambes cette fois-là en moins. Puis j'introduis là, dans cette version-là des nouvelles règles. Vous pouvez jouer avec deux Augustins en même temps, un aussi bête que l'autre. Ça amène des interactions vraiment incroyables qui rendent le jeu un peu infernal et quasi impossible à terminer. Donc calculez vos points. Si vous obtenez au moins 6 bonnes réponses, je vous réserverai une copie électronique de mon jeu de tête Ninkujat. Bon, pour le questionnaire, je joue avec vous, car ChatGPT ne m'a pas donné les réponses au début. Donc, vu que j'ai eu juste les questions, j'ai pu jouer, puis j'ai demandé les réponses après. Donc, première question. Quelle est la créature la plus ancienne vivant actuellement sur Terre? A. La méduse immortelle. B. Le requin du Groenland. C. La tortue géante des Galapagos. Et D. Malhotra Kapor, un nain tibétain. Bon, la méduse immortelle, ça sent le piège. Moi, je réponds pas ça. Malhotra Kapor, je pense qu'un nain vit pas plus vieux qu'une tortue. C'est de la même taille, mais d'après moi, le nain est moins vivace. Puis le requin, je sais pas. Moi, je serais porté à choisir la tortue. Je crois que sa vie est vieux, une tortue. Donc, ma réponse, la tortue. Faites votre choix aussi entre méduse, requin, tortue ou nain tibétain. Et bon, la réponse. La réponse, c'est le requin du Groenland. Il est considéré comme l'une des plus anciennes espèces de requins connues, remontant à plus de 400 ans. Ces requins sont connus pour leur longévité exceptionnelle et leur capacité à survivre dans les eaux froides de l'Arctique. Bon, ça part bien, 0 sur 10. Deuxième question. Dans quelle ville se trouve le plus grand réseau de tunnels souterrains du monde? A. Paris, en France. B. Tokyo, au Japon. C. Montréal, Canada. D. Le Dwarf Empire, en Chine. Moi, je dirais Paris, avec leurs catacombes et tout le tralala. Là, c'est sûr que, d'après moi, c'est Paris. En tout cas, c'est plus long que notre Montréal souterrain. Donc, j'éliminerai Montréal. Pour Tokyo, j'ai aucune idée. Puis pour le Dwarf Empire en Chine, ça, c'est le village qui est peuplé juste de nains. Là. Donc, je pense pas qu'il y a de longs souterrains en Chine. C'est en surface qu'ils font le pirouette, là, les nains. Donc, j'ai vraiment le feeling que c'est Paris la bonne réponse. Donc, final answer, Paris pour moi. Et vous? Donc, réponse. La réponse est Paris en France. La ville de Paris abrite un réseau de tunnels souterrains connu sous le nom de catacombes de Paris. Ce réseau est le plus vaste du monde et s'étend sur plus de 300 km quand même, c'est bon. Et ça nous permet de nous inscrire au tableau, 1 sur 10. J'ai regardé pour notre Montréal, c'est 32 km de le Montréal souterrain. Donc quand même assez loin du 300 de Paris. Troisième question. Quel animal peut vivre sans eau pendant plus d'un an? On a le chameau, le scorpion, le kangourou ou un pygmée. Ça, c'est le nain africain. Bon, moi, chameau, je pense que c'est un piège. On pense que les bosses sont remplies d'eau, mais non, c'est de la graisse. Moi, je dirais scorpion. Il y a pas mal juste un insecte qui pourrait vivre un an sans eau. Il n'y a aucun mammifère qui t'offre plus d'un mois, d'après moi, sans eau. C'est sûr que les nains, avec leurs problèmes de malformation, ils peuvent accumuler de l'eau, là, avoir de l'eau dans les genoux ou dans certaines articulations. Là. Mais d'après moi, ils ne peuvent pas garder plus qu'un litre d'eau là, dans leur malformation. Puis tu fais pas bien ben longtemps avec un litre d'eau. Donc, ouais, il y a le kangourou. Kangourou non plus. D'après moi, il ne peut pas mettre plus que 2 bouteilles d'eau dans sa poche. Non. Je suis pas mal sûr que la réponse, c'est le scorpion. Vous fait votre choix entre chameau, scorpion, kangourou ou notre Augustin d'Afrique? Eh bien, la réponse, c'est le scorpion. Les scorpions ont la capacité de survivre sans nourriture ni eau pendant de longues périodes, pouvant aller jusqu'à un an. Ils ont développé des adaptations spéciales pour survivre dans des environnements hostiles. Donc, c'était quand même assez logique ici. Donc, on marque des points. 2 sur 10, on avance. Quatrième question. Quelle est la plus grande structure vivante sur Terre? A. La grande barrière de corail. B. Le séquoia géant. C. Le champignon Armillaire ostoia. Et D. La moria. Bon, la moria, c'est pas vivant, on l'élimine. Quand Fredon y est passé dans la moria, ben, c'était gros et beau, là, mais c'est pas une structure vivante. Barrière de corail, d'après ce que j'en sais, ben, c'est en train de mourir à cause de la pollution, mais est-ce que c'est gros? Le séquoia géant, oui, c'est gros. C'est les plus gros arbres. C'est les gros arbres qu'on voit dans l'ouest du pays, là, dans lesquels on peut faire un trou assez grand pour passer une voiture. Donc, c'est gros. Mais, bon, moi, je serais quand même tenté de dire le champignon armillaire. Champignon, là, on parle de mycélium, de mucus fungus, puis il me semble que ça pourrait s'étendre sur pas mal large dans le sol. Ça pourrait s'interconnecter puis couvrir toute une forêt. Vous en pensez quoi? Ben, moi, je tente la réponse du champignon. Bon, donc, faites votre choix entre barrière de corail, séquoia géant ou le champignon. Réponse. La Grande Barrière de Corail, située au large de la côte du Queensland en Australie, la Grande Barrière de Corail est la plus grande structure vivante sur Terre. Elle est si vaste qu'elle est visible de l'espace et abrite une biodiversité marine incroyable. Elle s'étend sur 344 400 km², une superficie qui la rend visible de l'espace. Sans conteste, l'une des merveilles du patrimoine écologique mondial, la Grande Barrière de Corail se compose de 3000 systèmes différents de récifs, 600 îles tropicales et quelques 300 bancs de corail. Bon, c'était pas le champignouf, donc moi je reste à 2 sur 10 pour l'instant. Mais on avance. Et j'espère bien sûr que vous faites votre propre idée et que mes raisonnements à deux cents ne vous influencent pas trop. Maintenant, autre question. Quelle est la vitesse maximale enregistrée d'un éclair? A, 100 000 km/h. B, 300 000 km/h. C, 1 million de km/h. Bon, moi, j'aime pas vraiment cette question. Bon, c'est parce que c'est plus un guess là, ici que d'autres choses. Avec des chiffres, j'aime pas ça. Donc, je vais demander à ChatGPT, elle va me générer une autre question en fin de questionnaire. Mais pour vous, ça devient la question bonus. Moi, j'y répondrai pas. Donc, vous avez la chance de gagner un point bonus. Est-ce que c'est 100 000, 300 000 ou 1 million de km/h pour la vitesse d'un éclair? La réponse, eh bien, c'est 1 million de km/h, la vitesse maximale qui est enregistrée pour un éclair. Ce qui en fait un phénomène naturel extrêmement rapide et puissant. Ben oui, c'est sûr. Bon, de retour au vrai questionnaire avec des questions que j'aime. Cinquième question. Quel est le mammifère qui possède le cœur le plus gros? A. La baleine bleue. B. L'éléphant. C. L'hippopotame. D. Augustin, le nain au grand cœur. Moi, je dirais par simple déduction la baleine. Je pense qu'en frais de travail, la baleine est vraiment plus grosse que tous les autres animaux. Donc, probablement que c'est les organes le sont aussi. Il me semble que c'est juste logique. Bon, la baleine est tellement grosse par rapport aux autres que logiquement, là, ça va être ça la réponse. Bien sûr, on a des nains qui peuvent atteindre des tailles là, impressionnantes par rapport à leur grandeur, mais en comparaison, ça reste quand même petit là, par rapport à une baleine. Donc, choix logique, j'y vais avec Moby Dick. Et vous? Baleine, éléphant, hippopotame, qui a le cœur le plus gros? Eh bien, la réponse, le mammifère qui possède le cœur le plus gros est la baleine bleue, Baleopneptera musculus. Bon, ça c'est le nom latin. En effet, le cœur d'une baleine bleue peut peser environ 600 kg, soit environ 0,5% de son poids total. Cela en fait l'organe le plus lourd de tout être vivant connu sur la planète. La taille impressionnante du cœur de la baleine bleue est nécessaire pour pomper le sang à travers son immense corps qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long. Donc voilà. Bon, je suis rendu à 3 bonnes réponses sur 10, sur une possibilité de 10. Celle-là, c'était quand même une facile. Même mon Augustin aurait eu la bonne réponse. Sixième question. Ceux qui ont tout bien répondu ont la chance de remporter le jeu à partir d'ici ou de la question d'avant si vous avez eu le bonus. Quel pays produit le plus de chocolat au monde? A. La Belgique. B. La Suisse. C. Les États-Unis. Et D. La cité naine. C'est quand même difficile ici comme question. La cité naine, non. Les nains sont connus pour être des producteurs de bière, pas de chocolat. Donc, entre Belgique, Suisse et États-Unis, moi je dirais États-Unis. Attends, c'est quand même des grands producteurs d'un peu tout. Si ma vie dépendait de cette question, je dirais États-Unis, mais non. Ici, c'est juste la chance de gagner un beau jeu de nain manchot ou de nain cul-de-jatte. Donc, je réponds avec le type de chocolat que j'aime bien, le chocolat belge. Bon, c'est un guess en fait. On verra bien. La réponse. Au niveau de la production des fèves de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les principaux producteurs mondiaux. Ces deux pays d'Afrique sont les principaux exportateurs de cacao brut avec lequel on fait le chocolat. Bon, des pays comme la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas sont connus pour leur production de chocolat haut de gamme et sont des acteurs importants dans l'industrie chocolatière. Et la Belgique est connue pour être le pays produisant le plus de chocolat au monde. La quantité de son chocolat, non, la qualité de son chocolat est renommée avec de nombreuses marques et variées. Ben oui. Donc la réponse c'est la Belgique. Je marque encore un point. Yes! 4 sur 10. Mais on se rapproche de la fin. Septième question. Quelle est la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre? A. Moins 89.2 Celsius, moins 128.6 ou moins 183.2 Celsius. C'est quand même le fun comme question. On va apprendre quelque chose. C'est mieux que la vitesse de l'éclair, en tout cas. Bon, Où est-ce qu'il y a des grands froids sur Terre? Je cherche, c'est pas dans le fond de l'océan. Tant que l'eau est liquide, c'est pas gelé, donc c'est pas froid dans l'océan. Donc c'est sûrement en Arctique ou en Antarctique, là, pour le nord, pour le sud, qui a fait fret. Moi, je pense pas qu'on est allé plus bas que moins 100. Donc j'ai un feeling que c'est moins 89,2. Donc c'est ce que je choisis. Car dépasser moins 100, moi je pense qu'un nain congèle en moins de 2 minutes, puis je pense pas que c'est déjà arrivé. Allez, je valide moins 89,2. Et la réponse? Eh bien, c'est ça la réponse. La température la plus basse jamais enregistrée sur Terre est enregistrée en 83 à la station russe de Vostok en Antarctique. Cette température extrêmement basse représente l'une des conditions les plus extrêmes de notre planète. Donc, je suis à 5 points sur 10, j'avance. Puis avant de continuer, l'autre extrême, juste pour s'informer, la température la plus haute enregistrée, eh bien, le record officiel de chaleur qui a été enregistré le 10 juillet 1913 à Furnace Creek, dans la vallée de la mort en Californie. La température de l'air avait été mesurée à 56,7 degrés Celsius. Donc, c'est bon. Puis l'endroit détient le record de la plus forte température au sol avec 99,9 degrés Celsius mesuré le 15 juillet 1972. Donc imaginez un nain là, qui se promène là avec ses jambes courtes, il a le cul quand même assez proche du sol. Donc si ça monte à 93,9 degrés Celsius, il n'y a aucune chance, non. Huitième question, quel est l'animal le plus rapide sur Terre? A, le guépard, B, l'épervier, C, le colibri, et D, un nain de course qui participait au Dwarf Game Paralympique. Bon, ça c'est quand même difficile. L'animal terrestre le plus rapide, je suis pas mal sûr que c'est le guépard, mais là, ils ont ajouté des oiseaux là-dedans. Je suis tenté de dire l'épervier. Il me semble que dans un reportage, j'ai vu qu'il pique assez vite pour pogner ses proies, mais est-ce qu'il va plus vite qu'un guépard? Je sais pas. Pour le nain sportif, bon, c'est rare qu'on entend parler des Dwarf Games. S'il courait vite, on le saurait. Donc, vite votre réponse avant que je donne la mienne. Moi, j'y vais avec l'épervier. Donc, la réponse, c'est le guépard. Le guépard, bon, est l'animal terrestre le plus rapide, nanana. Il peut aller jusqu'à 120 km/h en quelques secondes. OK. J'ai été voir quand même pour l'épervier, c'est 80 km/h quand il descend sur une proie. Puis, surprenamment, le colibri, c'est l'animal là, qui bat le plus rapidement des ailes, l'oiseau qui bat le plus vite. Il peut voler jusqu'à 96 km/h quand il fuit. Bon. Puis finalement, je suis allé voir aussi pour un nain au Dwarf Game. Il y en a un qui a déjà atteint 5 km/h là, avant de tomber puis se blesser. Donc, pas de points ici pour moi. Neuvième question de notre super quiz. Oh, une question d'école, on dirait. Là. Quel est l'élément le plus abondant dans l'univers? A, l'hydrogène. B, l'hélium. C, le carbone. Et D, le cérumen d'oreille de nain. Bon, ici on parle de l'univers au complet, donc c'est sûrement pas le cérumen, c'est pas la cire d'oreille de nain, je l'élimine. C'est quand même bizarre, le choix D est souvent lié au nain là, dans notre quiz, là. C'est toujours des réponses inopportunes, je trouve. C'est bizarre. Donc, entre hydrogène, hélium, carbone, c'est quand même vaste l'univers, mais ça me dit pas ce qu'il y a dedans. Bon. Je pense que c'est le carbone, c'est la base, me semble. J'ai le feeling que c'est ça. Il y a toujours une molécule de carbone de liée à quelque chose pour donner de quoi. Même je pense que les nains sont formés de carbone. Un bon nain solide et difforme, là, c'est toujours composé de carbone. Donc, ma réponse à moi va être là, c'est le carbone. Et évidemment, la réponse est... Bon, c'est l'hydrogène, OK. L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers. Il représente 75% de la matière visible. Il est présent dans les étoiles, les nébuleuses, les galaxies. Suivi de l'hélium, les deux éléments les plus simples au niveau atomique et les plus légers de tous. Bon, avec carbone, j'étais loin de la réponse. Ce qui m'a mélangé, c'est que le carbone, lui, est lié avec... c'est plus lié avec la vie, mais bon, l'univers n'est pas reconnu à date pour être rempli de vie. Bref, je me suis planté. Mais, bon, moi, si j'étais vous, là, j'arrêterais d'écouter le Lobster. Il y a quand même des podcasts beaucoup plus pertinents et intelligents ou scientifiques qui vous permettraient de stimuler vos neurones. Ici, ça tourne pas haut, ça tourne maximum à la hauteur de la ceinture d'un nain. Mais bon, on continue quand même. On termine notre quiz. Finalement, on arrive à la 10e question. Moi, ça me prend une bonne question pour avoir une bonne réponse pour avoir la moyenne de 6 sur 10. Sinon, je gagne même pas à mon propre jeu. Donc... Quel animal peut manger jusqu'à 8000 calories en un seul repas? On a A, le lion, B, l'ours polaire, C, l'éléphant et D, le nain de cirque. Bon, c'est pas l'éléphant. Non, l'éléphant, c'est comme mon ami Martin, là, il mange des végétaux pour se calmer. Et le feuillage, c'est pas très calorique. Le nain de cirque, sûrement pas. Le nain de cirque n'a pas un gros estomac et avec ses petites mains, c'est impossible pour lui de manger 8000 calories en un seul repas. De plus, je soupçonne qu'un ours ou un lion sont capables de manger un nain en un seul repas. Donc, le nain de cirque, c'est pas la réponse. Donc, il me reste à choisir entre lion et ours polaire. Deux bons candidats. Deux qui ont la capacité de tuer un gros animal pour manger les 8000 calories. Moi, je serais tenté de dire l'ours polaire, car vu que l'ours, il doit hiberner, puis faire des réserves, probablement qu'il mange comme un cochon, puis il se bourre la face là, à chaque repas pour faire des réserves. Donc, j'y vais avec l'ours polaire, surtout que ma mère vient de me dire qu'il y a un ours qui rôde autour du chalet au Saguenay, qui est venu sur notre galerie. Ah là là. Bon, la réponse. Il s'agit... Bon, est-ce que je remporte mon quiz? Au moins 6 sur 10. Et oui, c'est l'ours polaire. Ces prédateurs majestueux sont connus pour leur capacité à consommer de grandes quantités de bouffe. Ils peuvent manger jusqu'à 8000. Nanana. Leur régime alimentaire est principalement composé de phoques, d'animaux marins, de nains riches en calories, ce qui leur permet de stocker des réserves de graisse pour les périodes de pénurie alimentaire. Donc 6 sur 10, j'ai donc réussi à me qualifier pour mon jeu gratuit. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit quiz. Pour moi, ça va être la fin de ce Lobster 138.0. Finalement, c'était pas si mal. J'ai réussi, je crois, à avoir du fun puis à me débrouiller avec pas grand-chose cette semaine. Puis en terminant, si vous avez le temps et l'envie d'aider, ben vous pouvez visiter la page International Dwarfism Organization. Vous cherchez ça dans Google, puis ça vous amène sur une page là, qui donne le lien de toutes les associations de personnes de petite taille dans le monde. C'est magique, c'est vraiment bien. Là. Il y a des belles photos, il y a des images, il y a des vidéos. On peut passer des heures de plaisir là-dessus. Surtout sur la page des petites personnes de petite taille du Kenya, c'est ma page préférée. Donc voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de Lobster, puis on se reparle bientôt. Bye bye! Et non, je suis encore là. Oh là là, pourquoi je suis encore là d'après vous? Pourquoi je suis encore là? En fait, je reviens de la boutique Comic Hunter. Tu sais, moi j'habite l'île Perrot, qui est dans l'ouest de Montréal. Puis il y a une boutique qui s'appelle Comic Hunter, qui est à Montréal, on va dire Montréal-Ouest. Moi, ça me prend 35 minutes de me rendre là. Puis c'est quoi cette boutique-là? C'est malade. C'est comme dans un sous-sol de bloc appartement, mais c'est un gros espace et c'est rempli de comics, de vieux bonhommes, de vieux Transformers, de vieilles tasses de barbe à papa, de posters, de nomme-le, il l'a, de les G.I. Joe, de plein de choses. C'est vraiment intéressant à chaque fois que je vois là. Et là, je viens de sortir de là. Facture, je suis ressorti avec une facture de 66$. Et je me suis dit, on va rentabiliser ça. On va en parler dans le Lobster. Première chose que je me suis acheté, il y avait un comics. Quand je parle de comics, c'est le petit format. Là, c'est comme les Spider-Man, tout ça, là, les vieux comics. Ça, combien ça a de pages? Bon, je dirais 35 pages. Puis le format est plus petit qu'une BD. Je me suis acheté Space Usagi. Usagi, ben c'est l'histoire, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est l'histoire d'un petit lapin, c'est écrit par un japonais. Puis lui, bon, dans ses histoires, c'est anthropomorphe. Le lapin, il est comme une personne. Là. Ça se déroule dans la période Edo, c'est le début du 17e siècle là, japonais, fait que c'est des samouraïs. Puis les dessins de cette personne-là sont magnifiques. Moi, je m'en sers comme modèle. Parce que je dessine toujours encore mon propre comics qui s'appelle Rika, qui est basé sur Usagi et sur, bon, majoritairement sur Gru. Gru est un autre personnage. C'est un genre de guerrier médiéval idiot qui ne comprend jamais rien puis qui tue habituellement les gens avec qui essaye de tuer, bon, qui essaye d'aider les gens mais qui tue habituellement ceux qui essayent d'aider. Donc finit toujours mal. Donc je me base majoritairement sur Gru pour dessiner. Je regarde comment le bonhomme est positionné, ça me permet de dessiner mon héroïne dans le même style. Évidemment, je me suis écrit mon histoire à moi est déjà tout écrit. Puis quand j'arrive à dessiner mes phrases, ben je me base sur les livres que j'ai. Je regarde les images puis je me dis ah, mon personnage pourrait être placé dans le même style. Puis en passant, si vous connaissez Group et que vous aimez ça, j'ai tous les livres en format électronique. Si jamais quelqu'un est intéressé, c'est juste de m'envoyer un message via la page du Lobster, puis je pourrais vous mettre ça là, sur WeTransfer. Ça comprend les... ça comprend quoi? Si je regarde rapidement, je l'ai sur mon bureau. Gru. Afficher détail. Gru. Donc, j'ai les premiers 1 à 120, Gru de Wanderer, c'est Gru le vagabond. De 1985 à 1995, il a sorti 120 comics. Là, en ce moment, moi, j'en possède physiquement, je vous dirais, une quarantaine. Moi, quand je vais à la boutique Comic Hunter, j'achète ceux qui sont en bas de 5$, mais là, j'ai pas mal tout acheté, ce qui est en bas de 5$. Je serais rendu à acheter à ce qui est entre 6 et 10$. Et le numéro final, il coûte, je l'ai vu la dernière fois, aux alentours de 120$. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je suis abonné dès que cet auteur-là, il sort des nouveaux groupes. Il s'appelle Sergio Aragones. Ben, je m'abonne, puis je les reçois. Là. Il y a Gru qui joue avec les dieux. Ça, c'est 4 épisodes. Et il a fait une série de 12 avec la compagnie Image. Il a fait de 1 à 12. Puis ça, c'est les plus beaux parce que c'est ses dessins les plus récents. Et cette série-là est vraiment belle. Donc, Gru 1 à 12 chez la compagnie Image. Donc, comme je vous dis, moi, je les ai en format électronique. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez. Donc, on resserre Space Usagi dans son enveloppe. C'est super beau. Sur l'image, on voit le petit lapin qui a toujours un kimono bleu. Il a son épée dans les mains. Puis autour de lui, il a l'air d'avoir comme des fantômes. Fait que ça s'appelle Space Usagi. Ça vient de sortir octobre 2023. 4,99 US. C'est pas mal beau. Puis c'est un one-shot, fait que là, je peux lire juste, il n'y a pas de suite à rien. J'aime ça quand c'est un one-shot, ça permet d'avoir la fin tout de suite. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? OK, bon, ça, ça s'appelle Le chat Félix. Félix le chat, c'est l'épisode Le Cowboy numéro 42 qui coûtait 50 sous en je sais pas quelle année. C'est la édition Héritage. Héritage, c'est la compagnie qui sortait les comics au Québec en français. Donc, il y a beaucoup de gens qui collectionnent les comics Héritage parce qu'ils sont en français. Moi, je les collectionne pas, je les achète pour les lire. J'ai payé 1$ pour Félix le Cowboy, 32 pages en couleur. Bon, j'ai hâte de le lire. Félix le chat, je l'écoutais en bonhomme quand j'étais jeune. Et j'en parlais à ma copine Erika et elle me disait qu'elle aussi écoutait El Gato. Félix El Gato. En espagnol quand elle était plus jeune. Donc, Félix a fait le tour du monde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, bon, j'ai quelque chose de beau ici. J'ai le numéro 1 de l'album Popeye. Je ne sais pas c'est quelle année. Édition Héros. Il coûtait 79 sous dans le temps. Est-ce qu'il y a la date? Si je vais voir à la fin. Au début, il n'y a rien. Paris, 1974. Popeye, bon... Popeye, il y avait une série animée quand j'étais jeune, avec Olive. Il se battait toujours contre Brutus. Brutus, c'était un autre marin méchant avec des gros bras. Popeye était évidemment pas toujours assez fort contre Brutus, mais quand Popeye prenait les épinards, ben là, il devenait correct et il pouvait aller sauver Olive parce que Olive, Brutus, il partait toujours avec. C'est un peu comme Mario Bros, là, puis la princesse. Là. Mario doit toujours aller chercher sa princesse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai acheté un Gru le vagabond. J'ai acheté le numéro 7 quand même. Ça fait partie de la série que je vous disais de 1 sur 120. Dans celui-là, c'est le personnage, le sage, qui apparaît. Le sage, c'est un personnage, bon, évidemment, qui a une grande barbe blanche. Là, c'est un genre de Gandalf. Puis lui, il a toujours des bonnes idées. Mais dès qu'il est en contact avec Gros, ça se passe jamais, jamais, jamais. Comment ça doit aller? Ça va jamais bien. Et là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ça, c'est quelque chose que j'avais acheté sur Internet parce que la boutique Comic Hunter, quand tu es abonné à eux dans Facebook, chaque jour, il y a quelque chose. Puis lundi, c'est les Franco-Folies. Les Franco-Folies, c'est quoi? C'est que... Parce que le monsieur là, qui est là, c'est quoi son nom? Marc. Marc, je sais pas pourquoi il y a autant de comics, mais il y a des boîtes et des boîtes. Il doit avoir des milliers de boîtes qui sont pas encore ouvertes. Puis il y a de ses employés, j'ai l'impression qu'ils les ouvrent. Puis là, ils font le tri, ils classent les choses. Puis là, tout ce qui est en français le lundi, il le met en ligne sur le site. Puis quand tu vois la revue avec son prix, ben tu peux dire réserve-moi-le. Puis quand tu le réserves, ben il met ça dans ta réserve automatiquement. Et là, la semaine passée, ou voilà deux semaines, j'avais vu qu'il y avait eu des BD qui s'appellent Bob et Bobette. Bon, c'est pas ça n'a pas rapport, là, c'est pas des bobettes, là, mais c'est le nom des deux personnages, un petit gars et une petite fille qui sont frères et sœurs. C'est une série, attends, par cœur, on va aller dans le control room, Bob et Bobette, Bob et Bobette, on va aller voir, Bob et Bobette est une série bande dessinée belge, créé par Willy van der Steen en 1945. Puis il y a combien d'épisodes? C'est malade. En arrière, il y en a des centaines. Il y en a eu combien? Nombre d'albums, 370. Quand même. C'est marqué au mois de septembre 2023. Ouais. Est-ce qu'il y en aurait fait? Ben voyons donc, le personnage. Il a commencé le 1er 30 mars 1945. Ça s'appelait Ricky et Bobette. Et le dernier, non, le 74, ok, je sais pas s'il y en aurait fait d'autres par la suite. Ah oui, le Joker perdu en 2022, ok, fait qu'il y a comme, il y a plusieurs gens qui font ça, là, quand, suite à leur décès, ou quand ils arrêtent de dessiner, ils redonnent la série à un autre dessinateur là, qui aime bien, puis ça continue, fait qu'il y aurait eu des nouvelles... Il y en a eu en 80... Ah oui, il y a eu 1 à 10 à partir de 93. Fait que c'est ça qui fait qu'il y a 330 BD. Si on ouvre une, on va ouvrir celle-là ici. Bob et Bobette, 5 piastres. L'âne au corset de briques. Bon, c'est dessiné, je dirais pas enfantin, là. C'est des belles bandes dessinées. Combien il y a de pages? Il y a 58 pages. C'est quand même généreux. C'est en couleur. Puis c'est toujours des affaires, il y a toujours des rebondissements dans Bob et Bobette. Il y a un de leurs oncles qui est fort, qui lui est capable de pousser n'importe quoi. Puis dans la BD, ils se permettent un peu n'importe quoi. Des fois, ils voyagent dans le temps, des fois, ils sont au temps des Romains. Donc, chaque album est différent. Donc là, j'ai l'âne au corset de briques, que j'ai hâte de lire. Ces albums-là ont la particularité de tout avoir une couverture qui est en rouge avec le numéro de 1 à 300 quelque. Le deuxième que j'ai acheté pour 5$, l'Attrape Mythe. Celui-là a l'air de se passer au temps des Romains. Puis on voit un corps fantôme qui vole dans les airs. Puis les enfants habillés en Romains essayent de l'attraper avec une amphore. Le prochain, c'est marqué L'Or Maudit de Coconera. Celui-là, on voit un vaisseau d'extraterrestres atterrit dans le terrain de la famille de Bob et Bobette et du vaisseau il y a comme un monstre qui est un genre de peluche bleu avec des mains en mitaine rouge et des ailes, donc c'est ça. Et le dernier que j'ai, ils sont tous 5$, Bob et Bobette, les rapaces. Celui-là se passe dans le monde Inca. On voit un Inca qui a l'air à prier les dieux, puis là on voit l'eau qui sort d'un genre de vieille pompe. Donc j'ai l'impression que dans celui-là, il manque d'eau dans un endroit, puis les enfants vont l'aider, mais avec une pompe là, qui va chercher l'eau dans le sol. Finalement, une autre chose que j'ai ramené aujourd'hui, j'ai ramené un Grou. Ça s'appelle Grou in the Wild. Celui-là, c'est le numéro 3 de 4, encore 4,99 US. Ça, c'est la série. C'est une série en 4 comics qui est sortie après les 1 de 12 images que je vous parlais tantôt. Ceux-là, maintenant, sont sortis par la compagnie Dark Horse Comics et les dessins sont magnifiques. Donc, ils sont encore plus beaux que les 1 à 12, là, mais c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai acheté ceux-là de Grew in the Wild. Je termine des achetés, il m'en manque un. Je suis abonné, là, j'ai reçu. Quand on s'abonne, ben, on les paye un petit peu moins cher. Et juste avant, c'était Grew Grew contre les dieux. C'était une série de 1 à 4 aussi, que je m'étais abonné, puis je les ai aussi. Moi, je les accumule, puis quand j'ai les 4, ben là, je les lis. Alors, une autre chose que je suis abonné, ça c'est Conan le Barbare. Conan est tombé dans le domaine public l'année passée, il me semble, je vous en avais parlé. Donc maintenant, tout le monde peut réutiliser les histoires de Conan, les dessiner. Tout le monde peut publier sous le nom les histoires de Conan. Pourquoi je suis abonné à ça? Parce que la boutique Comic Hunter nous, m'envoie par courriel qu'est-ce qui sort le mois prochain, puis on peut s'abonner évidemment pour avoir les choses moins chères. Et ça, c'est les aventures de Conan. Ça se passe où? Ça se passe, si j'ouvre la page, en Cimérie, ok. Ça se passe dans le nord, dans la Cimérie. Je les ai pas lus. J'en ai 3 ou 4 déjà d'accumulés. Ouais, c'est le troisième celui-là. Puis c'est des beaux dessins. Conan, j'adore ces. Conan, je le lis en français, en anglais. J'ai beaucoup, beaucoup de ces histoires. J'ai les intégrales aussi dans ma collection de BD. Je les ai pas toutes, là, mais j'adore les histoires de Conan. Donc, un Conan dans la pile. Ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai un autre Bob et Bobette. Bon, ça fait que ça en fait beaucoup. Celui-là, le trésor de Fish Curry. Celui-là, ça, on voit leur oncle, une épée. Ils sont habillés bizarres, de toutes colorées. Et on voit sur une rivière des petits hommes, qui sont tout petits, qui transportent des pièces d'or dans un petit bateau. Ils sont 4 bonhommes qui ont l'air à des vikings, mais mini, mini, mini. Donc, un autre à lire. Ça, c'est long, là. Je vous disais 53 pages, je pense, tantôt pour Bob et Bobette. C'est long à lire parce qu'il y a plein de dessins, plein d'images, puis plein de textes à lire. C'est vraiment le fun. Ça, une BD me prend 30 minutes, là, une BD normale, mais un Bob et Bobette m'en prend 45. Et finalement, deux autres choses que j'avais achetées sur quand c'était les Francofolies. Une aventure de Marc Mathieu, tome 1, Le Faucon de Mu. Ça, je sais pas c'est quoi, Le Faucon de Mu. Le Faucon, on va aller voir sur internet. Le Faucon de Mu. BD Tech, on va aller voir ça. En gros, je les ai achetés parce que la page, la couverture du Faucon de Mu, tome 2, ressemble beaucoup à Blake et Mortimer, Le Secret de la Pyramide. Puis je me suis dit, oh, ça a l'air dans le même style. Puis comme j'avais bien aimé, ben Blake et Mortimer, c'est une série que j'ai au complet, qui est magnifique. Donc j'ai décidé d'acheter ça. Puis qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Y a-tu un... Bon. Excellent, ce premier tome des aventures de Marc Mathieu, datant de 1981, est paru dans la célèbre revue Métal Hurlant, vaut son pesant de cacahuètes. Multiples rebondissements, décors magnifiques sur l'Égypte, scénario riche, culture sur l'Égypte, et bien sûr, une aventure passionnante à couper le souffle. Bon. Ok, ça fait que c'est quelqu'un qui en a fait plusieurs autres. Là, je vois qu'il y a le signe de Shiva. Ok, ça fait que c'est une série qui va jusqu'à tome 6, puis moi j'ai tome 1 et 2 qui se suivent. Et voilà. Puis c'est drôle, je parlais de Blake et Mortimer. La semaine passée, c'est quoi que j'ai acheté à Boutique Renaissance? Il y avait l'intégrale de Bob Moran et l'intégrale de Chick Bill, c'est ça. L'intégrale de Bob Moran, bon, c'est plusieurs livres qui reprennent les histoires de Bob Moran. Dans chaque BD, il y en avait 3. J'ai acheté volume 1, j'ai acheté tout ce qu'il y avait, 1 à 10 qu'il y avait. Puis il y avait l'intégrale de Chick Bill. Chick Bill, je l'ai déjà beaucoup en volume unitaire, mais là, c'était l'intégrale 1 à 11. Il y a encore 3 BD là-dedans, mais ça fait pas toute la série. La série, il y a au moins 70 volumes de mémoire. Puis là, 1 à 10, 1 à 11, ça m'en fait 33. En tout cas, là, je suis tout en train de les relire, mais ce que je voulais dire, bon, le lien est difficile à suivre, mais tantôt, je vous parlais de Blake et Mortimer et... Celui qui écrit Chick Bill, Tibet, il s'appelle Tibet, c'est son nom de plume, était l'ami de Blake et Mortimer et avait déjà dessiné dans certains Blake et Mortimer, je pense dans un des tomes. Et Dans l'intégrale que je suis en train de lire, les trois premières pages, c'est toujours Tibet qui raconte une histoire de quelque chose lié au dessin, quand il a rencontré Hergé, nanana. Puis dans un des volumes, il parle justement de Blake et Mortimer. Comment il s'appelle? Qui a écrit Blake et Mortimer? Blake, je regarde, Blake et Mortimer. Mortimer, la personne s'appelle... Francis Blake, c'est lui qui est... Non... C'est qui est... C'est marqué... OK, Edward P. Jacob. C'est lui qui a écrit les Blake et Mortimer. Puis c'était drôle de voir. Il disait qu'à un moment donné, Tibet, il est allé chez ce monsieur-là, là, Jacob. Puis il dit que le monsieur était un peu gêné de le faire rentrer chez lui parce qu'à l'intérieur de sa maison, c'était un peu rustre, je veux dire. Puis il n'y avait pas grand-chose. Puis là, c'est là qu'il a réalisé, Tibet, que... Malgré son succès, M. Jacob, il vivait quand même pas dans la richesse, il vivait un peu dans la pauvreté parce que les Blake et Mortimer, c'est des livres, c'est des BD qui ont plus de pages que la normale. Les dessins sont magnifiques et les dessins ont beaucoup de détails et les histoires ont beaucoup de textes, ce qui fait que produire un Blake et Mortimer, ça prend plus de temps que produire un chic bill de Tibet. Edward Jacob, il en a fait combien? Il a fait 29 albums dans sa vie. Donc, ce qu'il disait, Tibet, qui expliquait, c'est qu'avec ses droits d'auteur, Jacob, là, Blake et Mortimer, ne vivait pas dans la richesse parce que ça lui prenait trop de temps sortir ses albums. Fait que si on regarde, est-ce que c'est vrai cette histoire-là qu'il nous raconte? Je vais juste aller voir les dates de sortie de ses albums. Le premier album est sorti, Le secret de l'Espadon, en 1946. Puis il a terminé en... Fait que ça lui a pris 3 ans faire les dessins du secret de l'Espadon. Ça lui a pris 2 ans faire le mystère de la Grande Pyramide. Un autre 2 ans pour la marque jaune. Fait qu'on voit... Ouais, c'est ça. Il y a toujours... Des fois, il y a 3. Des fois, il y a 5 ans entre 2 albums. Donc, ses droits d'auteur, malheureusement, lui donnait pas assez d'argent. Et voilà, c'était une petite anecdote sur les BD, parce que dans le Lobster, je suis supposé de temps en temps parler de BD, parce que c'est une de mes passions. Et si vous voulez savoir, je suis rendu à combien de BD dans ma collection, j'ai un décompte de tout ça. On peut aller voir, je suis rendu à BD ici, si j'ouvre mon fichier BD, 9.8 version du document. J'écris évidemment tout le nom des BD que j'ai parce que quand j'arrive pour en acheter, il ne faut pas que j'achète des doubles. Je suis rendu à 2334 BD dans ma collection. Et oui. C'est quoi qui est écrit? J'avais acheté Astérix et le Griffon. Ça, c'est mon 2000e album que j'ai acheté. Et, oh oui, c'est bon. 2334. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour de mes achats? Non, il reste une chose, une dernière chose, je l'ouvre pour vous. 3$, c'est un livre BD, mais en format poche. Des fois, ils font ça, ils reprennent un album de BD, mais ils nous l'impriment en tout petit. Et celui-là, ça s'appelle « Pauvre capitaine », ah, c'est vieux en tabarouette, par R. Dirks. Deuxième volume des aventures du capitaine et des garnements. Ici, c'est... Ah ouais, c'est vraiment vieux. Ça date de... C'est en noir et blanc. 1966. Le monsieur, là, Rudolf Dirk. Lui, il a inventé ce personnage-là. C'est comme un marin. Puis, il y a toujours deux jeunes enfants qui lui jouent des tours, mais c'est des affaires un peu niaiseuses, là. Une bombe en dessous d'une chaise, puis... ça se passe tout le temps un peu sur l'eau, puis... OK, ouais. Vu que c'est vieux, il y a même un esclave là, sur le bateau. C'est... Mais bon, moi, je me souviens que je voyais ça en bonhomme à la TV, il me semble. Donc, évidemment, c'est pour ça que je les rachète. J'aime ça me replonger dans ça. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Depuis 1897, les deux garnements font la joie de générations des lecteurs partout dans le monde. » Donc, il a commencé à les dessiner en 1897, qui, je vous le rappelle, sont les années où mon piano a été créé. Bon. Malgré les guerres, les crises économiques ou les inventions extraordinaires, auto, avion, radio, nananana, ils sont restés merveilleusement eux-mêmes en incarnant une enfance espiègle et pleine de vie vitalité. Effectivement, dans les histoires, il n'y a pas rien lié à la technologie. Là. C'est, comme je vous disais, c'est des blagues enfantines un petit peu. Pensez qu'ils ont résisté à plus de 3000 fessées administrées par leurs victimes. Ah ouais, c'est ça. Quand ils se font attraper, je me souviens, là, les deux jeunes enfants, soit par le genre de bonhomme capitaine ou leurs parents. Leurs parents, c'est une grosse madame habillée en rouge, ou leur père qui a un gros chapeau bleu, ben, ils se font toujours donner la fessée comme punition. Et voilà, qu'est-ce que ça dit? 30 chapitres de l'histoire du capitaine. Ok, bon, c'est bon. Donc c'est ça. Ça termine ce Lobster pour vrai. On était dans l'aparté BD acheté au Comic Hunter. Sur ce, bonne fin de journée et bonne fin de Lobster. We'll be right back.
DJ te laisse enregistrer ton podcast.
Master! Master!
Master! Master!
La chienne.